1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air? Are we on the air?
Oh, salut les PD!
C'est le P d'avril, bonjour Phil.
Il a osé la faire. Salut Ghislain, salut Ariane.
Salut les PD.
Donc SLP d'avril, effectivement, première émission sur Divergence. Et on parle de quoi?
Eh ben on parle de sexe.
On parle de sexe.
Bah tiens.
Ouais, mais un peu pointu.
Bah non, justement.
Ariane, ça, tout dépend. Tout dépend comment on envisage les choses.
C'est tout ce que j'ai à dire.
Qu'est-ce qu'il y a, Ariane?
Un con, c'est conique.
Un con, c'est conique?
Oui.
C'est une contrepétrie?
Non, un con, c'est conique. D'ailleurs, je vous enjoins, chers petits camarades.
Tu nous enjoins?
Oui. À utiliser con de façon améliorative et non plus péjorative.
D'accord,
et je vous en remercierai.
Bon, et bah écoute, au bout de cette demi-heure d'émission, tu nous diras si on y a réussi ou pas.
Bah ouais.
Je vous surveille.
Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir dire plein de conneries sans se faire engueuler.
Exactement, on est là pour dire que des conneries.
En tous les cas, nous, on va forcément jouer le rôle des candides. On ne va pas beaucoup se forcer, Ghislain, n'est-ce pas?
Je crois pas, non.
Puisque, amis auditeurs, on parle effectivement de sexe, mais plus précisément, Ariane...
De sexe conique.
De sexe
conique.
Tout
à fait. Je serai votre grande conne ce soir.
Et en gros, tu vas nous prouver que les femmes ont une prostate, c'est ça?
À prouver, je ne ferai pas ça dans le studio, je n'ai pas emmené ma serviette éponge, mais on en discutera au moins, oui.
D'accord, bon. Petit jingle, et puis tout de suite derrière, ben, tu vas lancer les hostilités.
Hostilités tout de suite, je voyais ça vachement plus caressant, moi.
SLP, la émission.
Voilà, on peut me dire têtu ou obstiné, je m'en balance. Parce
oui,
que...
explique-nous pourquoi la genèse de cette émission, Ariane. Reviens là-dessus.
J'ai des manies, voilà, je vois pas d'autre explication. Je suis une grande maniaque sexuelle. L'année dernière, la dernière émission qu'on a fait donc, à début d'été 2010, c'était déjà sur la sexualité féminine. Et j'avais insisté des mois durant sur ce thème, puisque la première brève début 2010 qui m'avait un petit peu, comment dire, turlupinée, c'était une étude anglo-saxonne qui remettait en cause l'existence même du point G,
ouais,
en ayant demandé à une trentaine de paires de jumelles si elles l'avaient découvert et où elles le plaçaient. Les réponses ne concordant pas, donc, bon, ça n'existe pas. J'étais un petit peu hors de moi parce que ça a été beaucoup repris dans plein de médias nationaux assez importants et voilà, genre l'Express, Le Monde, etc.
Sur la seule base de cette étude.
Ouais.
Oui, la nouvelle de cette étude qui tombait a été reprise un peu partout, quoi. Et j'ai très peu entendu, en revanche, l'autre son de cloche.
Qui est,
bien sûr, le point G existe, même l'éjaculation féminine existe. Donc en paraphrasant le titre d'un article sur rue 89, rue 69, qui est toujours en ligne à ma connaissance. Un article qui donc faisait un petit peu retracer historiquement l'emplacement, la nomination aussi point G. Enfin moi j'étais restée dans le doute puisqu'il y a deux hommes, merci les hommes, en G, donc de Graf et Graffenberg, qui ont travaillé à ça. Donc l'un au début du 20e... et l'autre bien plus tôt, qui a fait des dissections et qui a laissé des planches anatomiques de ces zones qui sont très régulièrement laissées en blanc sur les planches anatomiques du petit bassin de la femme, encore aujourd'hui.
Et donc tu nous confirmes, l'appellation point G vient du nom de ces deux...
Alors je ne sais pas lequel des deux l'a donné, je pense que c'est le plus récent, Mais ce que je veux dire, c'est que donc il y a plusieurs siècles, je crois qu'il est hollandais ou quelque chose comme ça, il a donc fait des dissections et il a laissé des planches anatomiques qui font état de canaux éjaculatoires et donc d'un embryon de prostate chez la femme. Oui, parce que je rappelle que pendant les 6 premiers mois, quand même, on est tous à la base féminin. Donc pour que les mecs aient une prostate, il faut qu'il y ait un embryon de quelque chose les 6 mois d'avant. Hein. Ça ne sort pas de la cuisse de Jupiter, à ma connaissance. Donc cet embryon de prostate est situé autour... Oh non, dans l'anatomie, j'adore. Donc autour du canal urinaire, tout ce tissu éjaculatoire existe chez la femme. Il y a des corps érectiles et tout un tas de bordel là-dedans, dans ces zones qui sont laissées en blanc sur les planches anatomiques les plus...
C'est incroyable ça, ça veut dire qu'en fait il y a un gros vide sur les planches, il y a du rien.
Voilà, c'est blanc, c'est-à-dire que des fois on te met tissu musculaire ou tissu érectile, mais c'est blanc quoi, c'est pas dessiné, c'est pas comme, je sais pas, même moi qui ai jamais touché de bite à part celle de mes neveux.
C'est dégueulasse.
Ils ont quel âge tes neveux?
Bah faut changer leur couche quoi.
D'accord.
Mais oui, c'est en changeant leur couche.
Ok.
Bon.
Il n'y a pas que vous qui êtes détente, quoi. J'en peux plus. Alors,
poursuis, ne te déconcentre pas.
J'ai des souvenirs de planches anatomiques au collège où je me rendais bien compte que les corps spongieux et tout ça, le dessin, il était plein. Là où c'était blanc, c'était, bah, voilà, c'était la peau. Enfin, on pouvait très bien... Il n'y avait pas de vrai vide quoi, dans le dessin. Mm-hmm. Alors que chez la femme, il y a énormément de vide. Ce dont on avait aussi parlé à la fin de l'année 2010, c'était le corps du clitoris. Donc le clitoris, c'est pas juste un petit bout de capuchon qui dépasse... Enfin, un petit corps érectile avec un capuchon, qui ressemble donc très fort à un gland, enfin un prépuce, tout ça. Mais c'est pas au même état, pareil. Il y a une parenté quoi, entre les deux. Et donc le corps du clitoris, il va très loin à l'intérieur du corps. Hein. Ce qui dépasse, c'est vraiment le sommet de l'iceberg. Quoi.
D'accord.
Et ça commence à être un petit peu plus su. Ce sont des éléments qu'on a pu voir dessinés à la télé sur France 2, France 4, dans les derniers documentaires sur la sexualité féminine qui sont passés début 2011, fin 2010. Il y a eu quand même pas mal de choses dans ce genre-là. Donc voilà, le clitoris commence à être reconnu. Mmh. Voilà. Mais la prostate féminine, c'est de l'ordre du... Enfin voilà, la femme fontaine, c'est de l'ordre du mythe, ça n'existe pas, quoi. C'est complètement nié.
Donc tu vas œuvrer ce soir.
Oui, j'adore. Je kiffe. Si ma chaise est mouillée, je suis désolée.
Est-ce qu'on peut repartir du son qu'on avait déjà écouté?
Oui, on va t'écouter toi, d'ailleurs.
Oui, pareil, c'est moi qui le lis, je m'en souviens même pas. La terre du jardin roule entre tes dents. Ta salive l'humidifie. Tu m'alimentes avec elle de ta langue dans ma bouche, tes mains sur mes joues me maintenant immobile. Je me transforme en boue, mes jambes, mon sexe, mes cuisses, mon ventre, debout entre tes jambes, saoule de l'odeur qui, de la cyprine, vient montant de ton milieu. Je me liquéfie au dedans et au dehors, la boue atteint les muscles de mes cuisses, elle touche mon sexe, elle l'enrobe, froide et glissante. Mes nymphes se rétractant, elles se propagent à mon abdomen, à mes reins, à mes omoplates. Ma nuque est circonvenue à son tour, mon cou ploie. Toi, tenant toujours mes joues dans tes mains, m'emplissant de salive et de terre, ta langue contre mes gencives, mes muscles se séparent les uns des autres, tout mon corps est gagné. Le premier à tomber est mon anus. Quelques fessiers suivent de près, mes biceps abandonnent mes bras, les bras tout entiers tombent par terre, seuls mes joues restent intacts. Une odeur très forte de terre mouillée se répand, je vois des herbes prises dans les faisceaux de mes muscles, je perds courage, je m'abandonne à ta volonté, ma déplorable. Je n'ai aucune part à cette transformation systématique que tu commets sur moi. Alors, j'ai dit que je m'en souvenais pas, c'est pas vrai du tout, je pense que j'avais un peu refoulé, c'est tout. Tu précises de qui est le texte que
donc
que,
c'est un extrait, c'est un extrait du Corps lesbien de Monique Wittig.
Ouais.
Et voilà, c'est un texte qui est très troublant, qui a énormément choqué, d'une part par la teneur d'un érotisme violent, je vais dire, qu'on ne prête pas habituellement au sexe féminin, mm-hmm. D'autre part par la forme, donc c'est extrêmement poétique, on ne peut pas dire que ce soit complètement en prose, et puis il y a des choses typographiquement qui sont tout à fait spécifiques, Donc tu avais réarrangé le texte un petit peu pour que ce soit fluide à ta lecture, mais c'est vrai que quand on lit, il y a énormément de signes typographiques. Donc maintenant, on est très habitué au slash avec Internet, mais c'était pas tout à fait l'époque.
Mais c'est un peu difficile de le faire passer en radio.
Voilà, ça s'entend pas, mais quand on ouvre les pages, c'est extrêmement frappant graphiquement. Ouais. Le texte est vraiment rythmé par la présence de ces slash qui remettent en cause tout ce qui est genre. Mmh. Depuis les articles jusqu'aux pronoms, enfin tout quoi. Tout ce qui porte une marque de genre porte un slash en fait. Si mes souvenirs sont bons. Puisque là on l'entend, j'ai plus le texte sous les yeux, j'avoue. Et ce qui était très intéressant par rapport à ce texte dans la lecture qui en a été faite ici au milieu de nous il y a quelques mois, c'est...
les réactions.
Les réactions qu'il y a eu en plateau. Bon, moi, je me rappelle très bien de ta réaction à toi, Philippe, mais peut-être tu t'en rappelles aussi, du coup.
Vas-y.
Non, mais je suis surprise, si tu t'en souviens.
Non, pas précisément.
Alors, tu disais que donc, tu t'étais approprié le texte pour préparer la lecture.
Ouais.
Donc, tu t'étais fait un petit peu des paragraphes, alors que c'est un seul paragraphe unique dans le livre.
C'est vrai que j'avais restructuré le texte.
Voilà, pour que... Voilà. Et puis aussi au niveau de comment lire malgré les slash, etc., tu avais pris des décisions. Et tu disais que tu avais eu beaucoup de mal à te l'approprier parce que pour toi, c'était clair, c'est pas un mec qui avait écrit ça, quoi.
Ouais.
Voilà. Et en plateau, des personnes à la voix plus aiguë que toi ont dit mais pourquoi il n'y a
tu
rien
veux
de.
Dire Ghislain ?
Non, j'étais
pas
là.
Pas là,
mais c'est vrai.
Il a raté.
Pas là, non, mais Jean peut-être.
C'est ça.
Donc Célia disait que le texte n'était pas. Et oui, parce que c'était Célia.
Tu dénonces, hein.
Bah écoute, hein.
On salue si elle nous écoute.
Ouais, Célia. Et je te promets, j'essaierai de parler de cul aussi. Enfin, d'anus, pardon. Et. pour Célia, quoi, zut. Donc elle disait, mais pourquoi ce texte, il n'est pas marqué ça pourrait être un homme, une femme, whatever, comme dirait l'autre. Et ça m'a. J'ai pas réagi en plateau.
Ça t'a troublé.
Oui,
ça t'a
parce que moi,
choqué.
Je reconnais des. J'en ai parlé sur place. J'ai dit que au moins la Cyprine, pour moi, c'était nettement féminin. Et je pensais que c'était un mot qui était connu, partagé, etc. Les nymphes, ok, un peu moins, même si sur le plan de l'image, on comprend bien que c'est féminin.
Faudrait que tu nous expliques les nymphes après.
Les nymphes, c'est les petites lèvres.
Ok.
Voilà. Parce que moi, c'est des jeunes filles qui se baladent dans l'eau, quoi, les nymphes.
Ouais, ben exactement.
c'est un peu ça.
C'est un peu ça. Voilà, elle se balade dans la Cyprine.
C'est hyper poétique.
Donc, la Cyprine, vous savez ce que c'est ou pas ?
Oui, oui.
D'accord.
Donc... Oui, c'est une amie qui habite au Havre.
Donc la Cyprine, c'est le nom un peu savant des sécrétions vaginales.
Un ami.
Ça, c'était une intervention de Tao, notre technicien préféré.
voilà, et ça m'a assez secoué en fait que et je sais que beaucoup, enfin moi j'ai appris Cyprine à beaucoup de mes partenaires sexuels. Et je trouvais ça
féminine.
Quand même... Oui, bah oui, je t'ai dit, j'ai jamais touché.
Elle s'occupe que de ses neveux.
C'est vrai.
Voilà, de leur couche, je rappelle, de leur couche. Mes chères sœurs, ne vous inquiétez pas.
Ok.
Et voilà, alors que tous les termes style prépuce, gland et compagnie, je sais ce que c'est. Alors que bon, vous aurez compris que j'en ai rien à battre.
Bon, en gros, tout ça pour nous dire que même chez les filles, la sexualité féminine, enfin, ou les termes, etc., il y a encore plein d'inconnus, quoi. C'est-à-dire que dans les planches anatomiques qu'on donne à apprendre aux médecins et tout ça, il y a du blanc, il y a du vide, et puis les filles, elles connaissent même pas les trucs qui les concernent en propre, quoi. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire, c'est ça que tu
veux
nous raconter.
On nomme ce qui est donné comme visible. Donc si même les gynécologues n'ont pas forcément idée qu'il y a des canaux éjaculatoires cachés derrière le point G, les filles, elles ne vont pas le savoir, quoi. Où est-ce que tu l'as, cette information ?
En t'explorant.
Bah, je ne sais pas, oui, ce que j'allais
pas.
Dire.
Ouais,
en
mais
te rencontrant.
Ouais. Oui, c'est trop gentil. Mais par exemple, la sensation qu'il y a à l'éjaculation, en termes de sensation et en termes de à quoi on peut le comparer, ça ressemble à l'envie de pisser. Et généralement, tu te retiens. Mmh. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu t'autorises, même pas seulement à penser, mais à expérimenter.
Mmh. Mais ça ne vient pas tout seul, comme nous. Enfin, nous, c'est super dur à retenir, quand même.
Nous ?
Mais vous savez que vous pouvez éjaculer. Est-ce que ça ressemble à la... Moi, j'en sais rien. Est-ce que ça ressemble à l'envie de pisser quand vous êtes sur le point d'éjaculer ? Est-ce que ça ressemble à l'envie de pisser ?
Pas complètement, non.
Non, c'est pas la même sensation.
C'est pas la même sensation.
Mais vous, vous avez l'habitude. Enfin, tu vois, bah, c'est comme quand t'es petit, tu sais pas te retenir de quand t'as envie de pisser, etc. Oui. Tu sais pas te retenir. C'est quelque chose que tu apprends parce que tu reconnais la sensation, tu l'associes à quelque chose et on t'apprend. On t'explique. Tu vois les autres qui vont sur le pot ou qui vont aux chiottes. Enfin.
Donc tu penses que toi derrière ça, ce que tu pointes, c'est que finalement il y a un problème de transmission peut-être. Sur la prévention.
Mais c'est qui te transmet ? C'est-à-dire que celui qui transmet, c'est celui qui sait.
Oui.
Combien savent ? Et est-ce qu'on les écoute ? Puisqu'on on a entendu récemment sur les ondes de... Enfin là, il y a au début... En février 2011, il y a une gynécologue qui est venue sur le plateau d'Audrey Pulvar, matinale de France Inter, qui disait qu'elle avait galéré pour avoir accès à du matériel et à des sous pour des recherches sur la sexualité féminine, alors que j'ai vu que le premier... IRM de clitoris, c'est en 94 ou en 96, je sais plus, vous vous rendez compte depuis quand ça existe ?
94 ou en 96 ?
Oui, je m'en rappelle plus, mais c'est vraiment dans les années 90,
ouais, c'est
milieu,
récent.
Alors que l'IRM, ça fait beaucoup plus longtemps que ça existe, quoi. Mmh. Et alors que je sais pas combien d'études il y a qui sont tournées vers les problèmes de la prostate. Donc il y a vraiment une inégalité extrêmement forte là-dedans.
Ouais,
et puis on se moque des femmes qui disent « moi j'ai un point G, je sais très bien comment, où il se trouve, j'en jouis, et voilà. » Mais il y a encore des gens pour dire que le point G, ça n'existe pas. Mmh.
Tu nous proposes une autre lecture.
Alors, je vous propose une autre lecture qui n'est pas très loin de celle que j'avais faite à l'époque et qui va vous mettre autrement dans le sujet. Et justement, voilà. Parfois, c'est l'envie de pisser qui attire mon attention sur ce qui se passe entre mes jambes. Puisque pour te retenir, tu serres tes muscles PC. Allez pour un peu d'anatomie. Les muscles PC sont les muscles pubo-coccygiens qui tapissent les parois du vagin et autour du clit. Plus ils sont musclés, plus tu as des orgasmes intenses. Pour les muscler, tu fais des exercices de Kegel ou tu mets des boules de geisha. Ça devrait être obligatoire d'apprendre aux filles à travailler leurs muscles PC en cours d'éducation physique au collège. Et le truc, si tu serres et desserres les muscles PC pendant 20 minutes, c'est que tu stimules ton point G comme avec une pénétration et qu'après, tu peux éjaculer facile sans même te mettre un doigt dans la chatte. Enfin, c'est une recette qui marche pour moi, chacune son mode d'emploi. Accepter d'être une femme fontaine, toutes les femmes peuvent le faire, il suffit de lire Deborah Sandal, c'est aussi s'améliorer au niveau logistique, à moins d'aimer dormir sur un matelas trempé, ou de se retenir et de rétro-éjaculer, comme 70% des femmes qui pensent à tort qu'éjaculer, c'est uriner, parce qu'elles n'ont pas lu Deborah Sandal. Voilà, j'adore. Donc c'est extrait de... Enfin, c'est une petite compilation... des dernières pages de quatrième génération de Wendy Delorme.
Alors, tu nous situes, Wendy Delorme ?
Alors, Wendy Delorme, c'est une gouine high femme. Non, high femme, c'est très féminine.
Mm-hmm.
Donc, c'est vraiment performance du genre, talons hauts, résille. Une gouine à vernis, comme elle dit aussi.
Une gouine à vernis ?
Ouais,
oui, vernis à ongles.
D'accord.
Bien, j'adore. Donc oui, elle raconte un petit peu son trajet dans ce bouquin. Et on évolue dans un milieu pro-sexe qui est complètement exotique, quoi. Moi, je me souviens de mon sentiment à la lecture. Ça fait un petit moment que je l'ai lu. Et maintenant, ça m'est tellement plus familier que toutes les impressions liées à cette lecture sont très plaisantes.
Et c'était quoi ton sentiment à la lecture en deux mots, avant qu'on fasse une pause musicale,
hein ? J'avais l'impression d'être dans un autre monde, quoi. C'était vraiment de l'ordre de la fiction incroyable, alors que c'est étroitement autobiographique.
D'accord. Bon, on laisse passer Pink, et puis on se retrouve après.
Je serais peut-être partie, hein.
Tu veux dire...
Dans quel sens ?
Mais écoutez les paroles.
Ok.
I'm alone. I'm starving for some attention. I'm begging, pleading, bleeding for a suggestion.
Dernier souffle.
Voilà, Pink est passé avec ses fingers et tu es encore là.
Je suis encore là. Ouais. Encore là.
Mais tout est moustillé.
Ah ouais, faut voir dans quel état. Hein.
Waouh.
Ouais, franchement, je me suis même pas dessapé, les gars. J'ai fait un effort de dingue.
Merci. Passe à un nouveau son.
Ouais, on passe à un nouveau son, Ghislain. Alors, vas-y, c'est toi qui t'en es chargé. C'est un son sur...
C'est un son sur le point G, puisqu'en fait, on en parle depuis le début. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutu point G?
Et tu as la réponse?
Non, c'est pas moi, c'est une dame qui va parler.
D'accord, on l'écoute.
Allez.
Qui n'a jamais entendu parler du point G? Un point mystérieux qui serait la clé du plaisir féminin. Mais au fait, qu'est-ce que le point G?
C'est un tissu glandulaire donc qui est sensible aux caresses, qui va, sous la stimulation des caresses, gonfler. Et il va donner un plaisir différent que le plaisir clitoridien, qui est brutal, qui est rapide. Il est plus intense dans la mesure où il est plus lent, plus sourd, mais plus profond.
Le point G, un mythe et une zone peu connue. Rares sont celles qui en ont conscience. Explosion, raz-de-marée, tremblement de terre, vagues déferlantes. Les métaphores pour décrire l'orgasme vaginal ne manquent pas. Et pourtant, seuls 30% des femmes ont connu un orgasme vaginal déclenché par la stimulation du point G. Alors sur les chemins de la volupté, on trouve une nouvelle méthode, la méthode d'amplification du point G.
C'est une méthode qui est très simple, qui sert à doper, à regonfler cette zone. Donc il s'agit d'injecter un produit naturel, l'acide hyaluronique, qui entoure la zone en question. Et donc en gonflant, augmente la sensibilité au toucher. Donc déjà, ça permet à la femme et à l'homme, à son partenaire, de mieux situer la zone et de répondre aux caresses de manière plus intense.
La prostate féminine ou point G ne serait donc pas un mythe. Présent chez 80% des femmes, il aurait une fonction bien définie dans le plaisir féminin.
Alors, merci, je voudrais dire que...
Oui, merci, madame.
Merci, Direct 8, pour l'accompagnement musical.
C'est ça, ouais. L'ambiance easy listening derrière, c'est quelque chose,
mais
quand même.
Mais je voudrais préciser que moi, lectrice de Deborah Sundahl, abondamment citée donc par Wendy Delorme...
Ouais, dont on va reparler.
Ouais, le point G est présent chez 80% des femmes à un endroit accessible par stimulation digitale. Et chez les 20% restants,
digital,
ça veut dire la longueur d'un doigt, ça veut dire pas trop loin, profond. Mm-hmm. Et sur les 20 autres pourcents, ce tissu est en fait plus profondément caché, mais il est présent aussi. Donc 100% des femmes sont munies de cet embryon de prostate à la naissance. 100% des femmes peuvent éjaculer avec la stimulation.
Donc pour celles qui ne l'ont pas encore trouvé, ne désespérez pas, explorer, c'est ça ?
Ah oui, mais c'est une exploration qui peut prendre... Moi, j'ai mis un bon petit moment quand même.
Ouais, on rappelle que tu as 50 ans cette année.
Non, j'ai eu 30 ans il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Et donc, tu ne conseilles pas aux filles d'aller se faire gonfler le point G ?
Ah non, pas du tout. Je conseille déjà l'exploration, se reconnaître soi. Bon, déjà, c'est important de savoir que ça existe, c'est possible et que c'est... Voilà, se l'autoriser.
D'accord.
Mais donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une sensation qui ressemble à l'envie de pisser. Donc, on a tendance à se retenir. Donc, il faut savoir que ça existe, se mettre au calme avec ça. Enfin, c'est une vraie démarche. C'est
limite
méditatif. Et puis, il faut trouver... Ah, mais franchement, moi, j'ai passé des heures... Et pas des heures de plaisir, quoi. Vraiment des heures de recherche.
Bon, si tu veux nous parler de Deborah Sundahl et nous resituer
j'ai fait ça accompagné par le livre de Deborah Sundahl.
Ouais, il doit te rester 2 minutes 30 pour le faire. Hein. Je suis désolé.
Oh, quelle horreur. Donc ça s'appelle « Tout savoir sur le point G et l'éjaculation féminine ».
Tu le conseilles ?
C'est pas super bien écrit ou traduit, mais c'est vraiment super utile.
C'est
quoi.
Traduit de l'américain ?
Oui, Deborah Sundahl, c'est une activiste pro-sexe américaine depuis un bon petit paquet d'années.
Donc c'est l'ouvrage de référence, paru en 2003, c'est ça ?
C'est paru en 2003 aux États-Unis, traduit en 2005, c'est trouvable chez Tabou, donc dans tous les bons sex shops, vous trouvez ça.
Ok, en quelques mots.
Oui, ça parle de quoi ?
Alors ça parle de l'éjaculation féminine et de la libération sexuelle féminine à travers les âges de différentes façons. Ça rappelle que l'éjaculation féminine a été reconnue dans plein de cultures à travers le monde, à travers les âges. Et que donc c'est une forme... Enfin, moi je considère que c'est une brimade de le nier aujourd'hui. Et il y a de tout, depuis les exercices, donc des exercices de Kegel, donc ce qui permet de muscler le vagin et donc de pouvoir devenir sensible aux stimulations qui vont venir toucher le point G. Il y a tout, quoi. Il y a tout en étapes, psychologiquement, physiquement, seul, puis avec partenaire. Enfin, voilà. Il y a tout.
Et c'est là où il y a les petits dessins que tu m'as montrés ?
Ouais, il y a des super bons dessins. Je conseille la page 163.
Ah ouais. La page 163.
Oui, j'aime beaucoup la page 163.
Oui, je me souviens, effectivement. Amis auditeurs, tu nous en diras des nouvelles.
Bon, en tout cas, bonne nouvelle. Ce soir, on a appris que les filles aussi pourraient un jour avoir un cancer de la prostate.
Ouais. Et alors...
éjaculer, c'est bon pour la santé.
Bon, moi j'ai beaucoup aimé.
J'adore.
Je pense que c'est l'émission la plus conne qu'on a faite.
Ouais.
Tu aimes ça ?
Ah oui, j'adore les conneries.
Bon. Et ben, voilà, on va en conclure là-dessus. On se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Oui,
n'oublie Justin. Pas que pour SLP d'avril, ne te découvre pas trop, Phil.
Ah si, découvre-toi, Phil.
Mettez-vous d'accord.
SLP, si tu es sage, on va recommencer. Je raconte une histoire d'amour. Au printemps... Un rossignol se pose sur un cerisier. Le cerisier dit au rossignol « Ouvre tes bourgeons, fleuris avec moi. » Le rossignol dit au cerisier « Ouvre tes ailes, vole avec moi. »
Ils sont bien partis, tes mecs. Tous les paumés qui se marient sont pareils. Tous aussi bien assortis. Casserole, cheval, poisson, raton, doigts de pied, bigoudi. Et chacun des deux pense qu'à friser l'autre ou à le faire entrer dans sa godasse.
Je raconte la fin de l'histoire. Alors le rossignol ouvrit ses bourgeons et fleurit. Et le cerisier ouvrit ses ailes et s'envola en apportant le rossignol.
Et qu'est-ce que c'est ? Une fable ?
C'est l'amour.
Nina Hagin,